France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la tuerie de Duisbourg. Le 15 août 2007, dans cette ville allemande, six cadavres sont retrouvés sur le parking d'une petite pizzeria, exécutés avec une froideur professionnelle. Tous sont italiens, calabrais pour être précis. Dès les premières heures, les enquêteurs comprennent qui ils sont et pourquoi on leur a réservé un tel sort. Ils appartenaient à la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise, victime d'une vendetta. Ce massacre illustre les haines recuites entre clans originaires d'un même village en Calabre, engagés dans une guerre sanglante depuis le début des années 90. Les Pelle Votari contre les Nirta Strangio. C'est aussi l'expansion de la 'Ndrangheta, une organisation désormais mondialisée. Allemands et Européens découvrent alors à quel point cette mafia est implantée dans leur pays et à quel point le problème a été sous-estimé malgré les signaux d'alerte. Notre invité aujourd'hui, Clotilde Champerache, économiste, maître de conférences au CNAM, Pôle Sécurité Défense Renseignement, autrice de Géopolitique des Mafias, livre paru aux éditions du Cavalier Bleu en 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Héloïse Rambert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargée de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Nous sommes dans la nuit du 14 au 15 août 2007, à Duisbourg, en Allemagne, à deux pas de la gare centrale. À la sortie d'une petite pizzeria banale, située au rez-de-chaussée d'un petit bâtiment tout aussi banal, la police découvre les corps de six hommes. Quatre gisent dans une Golf noire, deux autres dans une camionnette Open Combo blanche. Ils sont tombés dans une embuscade. Plus de 70 balles ont été tirées à l'arme automatique. Les impacts, très centrés sur leur cible, témoignent du professionnalisme des tueurs. Tous ont été consciencieusement achevés d'une balle dans la tête. Le lendemain, la nouvelle du carnage fait le tour des médias.
Les victimes sont encore à terre, le crime est d'une rare méticulosité. Un règlement de compte comme n'en avait jamais connu cette ville industrielle du sud-ouest de l'Allemagne.
Mes collègues ont trouvé les six personnes en position assise dans deux voitures. Cinq d'entre elles étaient déjà mortes. La dernière est décédée durant son transfert à l'hôpital.
Les six hommes, âgés de 16 à 38 ans, sont tous italiens. Originaires de Calabre, cette région enclavée tout au sud de la Botte, sur la façade ouest de la péninsule. Ce soir-là, ils étaient officiellement réunis au restaurant pour le 18e anniversaire de l'un d'entre eux qui venait d'y commencer un apprentissage. En tout cas, les policiers comprennent qu'ils vont avoir besoin d'un sérieux coup de main. De fait, quelques heures après les événements, leurs homologues calabrais atterrissent à l'aéroport de Düsseldorf. Nicolas Gratteri, alors procureur adjoint de Reggio de Calabre, raconte ses premières constatations.
Le matin vers 6 heures, je reçois un coup de fil de l'Allemagne. On me dit, il s'est passé ça, venez vite en Allemagne. J'y vais et je vois que dans le portefeuille d'une des victimes, il y a une image de Saint-Michel-Archange, avec la tête brûlée. Saint-Michel-Archange, c'est le protecteur de la 'Ndrangheta. J'entre dans le restaurant d'Abruno et je vois une grande table, un buffet, et sur le buffet, une statue de Saint-Michel-Archange.
L'image pieuse est retrouvée sur le cadavre du roi de la fête, le jeune homme qui célébrait son anniversaire ce soir-là. La fouille du restaurant permet aussi de retrouver un fusil d'assaut et un chargeur de 90 cartouches. La pizzeria d'Abruno, les Italiens de Duisbourg la connaissent bien. Ils ont été nombreux à y fêter les exploits de leur équipe nationale lors du mondial de foot l'année précédente. L'Italie championne du monde, titre décroché à Berlin, de surcroît. Mais tout laisse à penser que la pizzeria sert aussi de lieu de réunion à la 'Ndrangheta, le nom donné à la mafia calabraise. Et que ce soir-là, il n'y a pas eu qu'un anniversaire, mais un baptême mafieux, un rite d'initiation. Autre certitude, il y avait plusieurs tueurs. Les images de vidéosurveillance le confirment. On y voit deux assaillants encagoulés sortir de l'ombre et surgir sur le parking. Les enquêteurs comprennent tout de suite à quoi et à qui ils ont affaire. Le commando est originaire de la même localité que trois de leurs victimes, Sannuca, en Calabre. Ce bain de sang, c'est clair, est une énième vendetta. Car depuis 15 ans, Une guerre à mort oppose deux clans mafieux, celui des Nirta Strangio et celui des Pelle Votari. On appelle ça une faïda, un interminable conflit entre familles, nourri de rivalités et de haine tenace. Une spirale de violence où chacun rend la monnaie de sa pièce à l'autre et où le sang appelle le sang. Depuis le début des années 90, la faïda de San Luca a déjà fait une vingtaine de morts, auxquels il faut désormais en ajouter 6. Du jour au lendemain, le nom de 'Ndrangheta devient connu du grand public européen. Et San Luca, obscur village montagneux calabrais, bientôt envahi par les journalistes, est épinglé sur la carte.
Vieles weist auf einen Racheakt im Mafia-Milieu hin. Die Spur führt nach Kalabrien in den kleinen Ort San Luca, wo die Mafia-Organisation 'Ndrangheta ihre Heimat.
Geschossen, 6 Italiener sterben in der Nacht. Sie hatten gerade in einer benachbarten Pizzeria Richtung nach Mafia-Manier.
À Duisbourg, ville moyenne aux confins de la Ruhr, on n'a jamais vu ça. L'Allemagne et l'Europe réalisent, sidérées, que la 'Ndrangheta a pris racine hors des frontières italiennes et qu'elle règle aussi ses comptes. Les policiers italiens, eux, sont moins étonnés. Ils estiment que l'implantation de cette mafia en Allemagne remonte aux années 70 et que ce n'est pas le seul pays touché. En tout cas, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Les autorités italiennes, elles, redoutent de nouvelles représailles, notamment à l'occasion des obsèques des victimes qui s'annoncent à haut risque. Pour le jeune homme de 18 ans, pas de problème. Il sera inhumé en Allemagne, où il est né et où résident ses parents calabrais. Mais les 5 autres corps seront rapatriés. Pendant des jours, le préfet hésite à autoriser des funérailles publiques, avant finalement de donner son feu vert, mais avec interdiction de former un cortège funéraire. Le soir du 23 août, 8 jours après la tuerie, les dépouilles rejoignent San Luca depuis l'aéroport de Rome dans des corbillards banalisés. 2 autres victimes ont été inhumées le matin même dans la commune de Siderno, à une trentaine de kilomètres de là. À voir San Luca, difficile de réaliser que ce village de 4500 âmes, accroché au massif montagneux de l'Aspromonte, est un bastion, voire la capitale de la richissime mafia calabraise. Parce que tout y est désolé, sans charme. Les maisons sont souvent inachevées, les rues bordées de poubelles criblées d'impacts de balles. Mais c'est non loin de là, au cœur des montagnes, que se trouve un lieu essentiel pour les affaires criminelles, le sanctuaire de la Madone de Polsi. Un lieu de pèlerinage, une église située à plus de 800 mètres d'altitude, entourée de montagnes escarpées et de forêts. Impressionnant. La tradition veut qu'en septembre, à l'occasion de la fête de la Madone, les chefs mafieux, y compris ceux qui opèrent à l'étranger, s'y réunissent pour y prendre des décisions stratégiques. Sur le parvis de l'église de San Luca, des centaines de personnes attendent les 3 enfants du pays dans une lumière crépusculaire et dans un silence de plomb, c'est le cas de le dire. Les cercueils sont accueillis par des applaudissements. L'évêque de Locri, Monseigneur Giancarlo Brigantini, témoigne au micro de France Inter des rancunes accumulées dans le village.
Il y a à San Luca beaucoup de cas de familles qui ont un parent ou un proche qui ont été tués par balles. Ce n'est pas facile de leur parler de pardon, ce n'est pas facile de cultiver dans leur cœur un sentiment de miséricorde. Les larmes de sang ont tellement coulé. Et c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui dans la famille Giorgi. La maman de Francesco pardonne, veut la paix et ne parle pas de vengeance.
Autour des cercueils, des membres des familles de victimes portent en effet des t-shirts blancs en signe de paix et de pardon. Mais qui peut les croire? L'histoire de la 'Ndrangheta n'est qu'une histoire de violence et une histoire de famille. Contrairement aux autres mafias italiennes, celle-là s'appuie sur une base exclusivement familiale, biologique. Autrement dit, le pouvoir se transmet par le sang. En Sicile, les clans de Cosa Nostra prennent le nom du territoire où ils sont enracinés. En Calabre, ils se font appeler par le nom des familles dirigeantes. Et les Pelle Votari et les Nirta Strangio sont de celles qui comptent à San Luca. Le poids de la famille méditerranéenne et la loyauté à la vie et à la mort qu'elle impose à ses membres rendent la 'Ndrangheta compacte, inébranlable. Impossible en effet de trahir un oncle, un père, un cousin d'ailleurs. Contrairement à d'autres organisations, elle ne compte dans ses rangs quasiment pas de repentis. Comme les autres, la mafia calabraise naît à la moitié du 19e siècle de défaillance du jeune État italien. Pendant très longtemps, enclavée dans la région la plus déshéritée d'Italie, elle se cantonne aux raquettes et aux expropriations. Mais au tournant des années 70, l'appétit de la jeune génération de dranguettistes s'aiguise. Elle veut se lancer dans le trafic international de drogue, comme Cosa Nostra. Elle cherche aussi à décrocher des appels d'offres publics. Mais pour ça, il faut des liquidités. Alors, les mafieux se lancent dans un business juteux, les enlèvements, avec demande de rançon. Pendant plus de deux décennies, dans toute Italie, des industriels, des médecins, des enfants de familles riches sont victimes de rapts. Ils sont séquestrés dans le massif de l'Aspromonte dans des conditions extrêmement dures, dans des grottes, des souterrains, globalement dans des endroits très difficiles d'accès. Les forces de l'ordre sont impuissantes et les familles obligées de payer. Carlo De Feo, un ingénieur, a été séquestré pendant toute une année entre 1983 et 1984. Il raconte.
Avoir affaire à ces personnages, c'est comme entrer dans un autre monde. En général, ils nous attachaient avec deux chaînes, l'une aux pieds et une à la main. Ça nous mettait dans une situation d'assujettissement terrible. J'ai découvert que j'étais dans l'Aspromonte après trois mois, quand on a commencé à se déplacer vers Sumara Careri, sur la mer tyrrhénienne. On a marché jusqu'à la pointe de l'Aspromonte. Ça a été une nuit vraiment terrible, parce que si on reste immobile pendant trois mois, pieds et poings liés, marcher et puis marcher, même pas sur la route, marcher sur les sentiers de montagne, c'est une douleur atroce dans tout le corps. J'avais les ongles et des orteils arrachés. J'ai beaucoup souffert. Et une fois arrivés, ils m'ont attaché à un arbre avec une grosse chaîne et ils sont partis.
Entre 1970 et 1988, la 'Ndrangheta orchestre ainsi plus de 200 enlèvements. Le phénomène est tel que les journaux quotidiens consacrent une page de leurs éditions au sujet, oui. Comme il y a une page sport ou culture, il y a une page séquestration. La 'Ndrangheta soigne sa réputation de mafia rurale, archaïque et brutale. Les rançons payées par les familles atteignent parfois plusieurs millions de livres. L'organisation criminelle se retrouve ainsi assise sur un tas d'or et elle est prête à changer de braquet. En toute discrétion. Il se trouve qu'à la fin des années 80, l'État italien est sur un autre front, en Sicile, comme une autre contre une autre mafia, Cosa Nostra, qui lui a déclaré la guerre sous l'égide de son chef brutal et sanguinaire, Totò Riina, qui a pris le parti d'éliminer tous ses adversaires et qui n'hésite pas à exécuter des hommes politiques et des juges dans des attentats spectaculaires. Les meilleurs policiers, les meilleurs magistrats sont envoyés en Sicile. Beaucoup n'en reviendront pas. Le général Dalla Chiesa, notamment, et bien sûr les deux juges palermitans, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, deux authentiques héros italiens. L'aéroport de Palerme porte leur nom. Mais l'attention portée à Cosa Nostra bénéficie directement à 'Ndrangheta, qui entame son ascension dans la criminalité internationale. Elle investit dans le trafic de drogue, l'argent sale est blanchi, puis réinjecté dans l'économie légale en Italie, mais aussi au nord de l'Europe. Comme un cancer, la 'Ndrangheta métastase hors de ses frontières naturelles. L'Allemagne en particulier devient une terre promise pour les affaires. En 1989, à la chute du mur, le pays est à la recherche d'investisseurs et tous les capitaux sont les bienvenus. D'ailleurs, à cette époque, la section de lutte contre la criminalité organisée de la police allemande intercepte les directives d'un chef de la 'Ndrangheta à son lieutenant à Berlin qui lui dit « Tu dois tout acheter, tout, des discothèques, des bars, des pizzas, tout », lui ordonne-t-il. Giorgio Basile, l'un des rares repentis de la 'Ndrangheta, raconte dans le documentaire « Main basse sur l'Europe » en 2009.
« C'era un cambio di business forte.
Il y avait plein d'affaires à faire, surtout après la chute du mur. On a commencé à l'Est, la Russie, la Pologne, etc. Puis on s'est rapproché peu à peu. Ce que personne n'a compris, c'est que beaucoup de notre argent a participé au nouveau Berlin. Après la chute du mur, vous ne pouvez pas imaginer les capitaux italiens qui circulaient. En Allemagne, c'était plus facile. On ouvrait un restaurant, même si on n'y travaillait pas. On y mettait un type en querelle qui faisait semblant de bosser. Et c'était une bonne couverture. Tout le monde n'y voyait que du feu.
Où que prospèrent les clans, le lien avec la culture et avec la maison mère de San Luca n'est jamais rompu. Ce n'est pas pour rien que la bourgade est surnommée la Mama par les affiliés. C'est elle qui prend les décisions, qui fixe les règles et distribue récompenses ou punitions. Mais les enfants peuvent être remuants. À la fin des années 80, les opportunités criminelles génèrent des luttes de pouvoir entre clans, à tel point qu'une guerre éclate. Dans le cas des familles Nirta Strangio et Pele Votari, les intérêts économiques se doublent d'une haine viscérale. Alors, il va suffire d'un événement anodin pour que la violence explose.
I like my town. With a little drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and a hundred sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Is in with weasels. Here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tuerie de Duisbourg, la mafia calabraise en terre allemande.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Comprendre pourquoi six Calabrais gisent sur le pavé allemand en ce 15 août 2007, il faut rembobiner 16 ans de rancune féroce et se rendre à 2000 km au sud, à San Luca, dans l'ouest de la Calabre. En 1991 déjà, les relations sont très tendues entre les clans mafieux Pelle Votari et Nirta Cirangio. Les premiers forment l'une des familles les plus importantes du village. Ils comptent dans leur rang quelques-uns des plus hauts gradés de la 'Ndrangheta. Les seconds ont sans doute pas mal d'enlèvements à leur actif, mais ils peuvent moins se vanter d'avoir gravi les échelons de l'organisation criminelle. Dans le village, certaines lignes de démarcation entre les territoires des deux clans ne doivent pas être franchies. Pourtant, certains sont liés. L'un des plus jeunes Votari, par exemple, est marié avec une fille Strangio. Mais pas de quoi apaiser les tensions. « Mon fils a épousé une vraie salope », répète à l'envi la mère du mari. Ambiance. Ce 10 février 91, c'est jour de carnaval. Comme d'habitude, des adolescents s'amusent à se poursuivre dans les rues étroites du village, armés d'œufs et de bombes de mousse à raser. Il se trouve que des jeunes du clan Nirta Strangio lancent des œufs sur un local associatif géré par le clan adverse. Puis, ils aspergent de mousse la golf d'Antonio Votari, 24 ans. Alors Votari voit rouge, se précipite sur les frontées et le passe à tabac jusqu'au sang. Lorsque ses grands cousins trouvent le garçon tuméfié et en pleurs, tous s'enveniment, les insultent, puis les coups volent entre membres des deux familles. Antonio Votari finit par sortir un calibre 7,65. La suite, c'est le journaliste Roberto Saviano qui la raconte dans l'émission de télévision italienne King of Crime en 2018.
Il fait deux morts, deux blessés graves. Il va payer ce geste un an après, en étant tué à son tour. De là commence une vendetta sans fin, à tel point qu'à San Luca, au début des années 90, aucun parent des clans Pele Votari et Nirta Strangio ne pouvait se considérer à l'abri. Aucun.
Alors que dans le reste de la Calabre, les familles s'entendent pour mettre fin à la guerre, San Luca sombre dans la violence. Pendant deux ans, les règlements de compte s'enchaînent. Les hommes tombent comme des mouches, abattus dans leur bergerie, devant une boucherie ou au volant de leur voiture. La situation n'est plus tenable. Il faut trouver une solution. Pendant l'été 93, les ennemis jurés se retrouvent donc autour d'une table. Des hommes entre 20 et 40 ans. Souvent des frères et des cousins qui échangent des regards de haine et se prennent terriblement au sérieux, jusqu'au ridicule. À leur côté, un juge de paix et des ambassadeurs des familles importantes de la région. Et un compromis est trouvé. Les survivants sont promus au sein de l'organisation criminelle. En contrepartie, cessez-le-feu immédiat. Cette sorte de pax mafiosa va tenir 12 ans, durant lesquels les Pele Votari et les Nirta Strangio s'enrichissent, investissent dans le nord de l'Italie, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie et en Allemagne. Ou d'ailleurs, on connaît très bien l'existence de ces pizzerias lessiveuses d'argent sale tenues par les clans de San Luca, que ce soit à Duisbourg, à Erfurt ou à Leipzig. On les connaît au moins depuis l'an 2000. Un rapport ultra-secret de la police fédérale l'atteste. Mais une certaine pizzeria d'Abruno, futur théâtre de la tuerie, est mentionnée. Elle a été achetée 250 000 Deutsche Mark, cash, par un Calabrais qui déclarait en gagner 800 par mois. Apparemment, l'Allemagne est un pays de cocagne pour les pizzaioli. Du côté de San Luca, on ne lâche rien. Un soir de l'été 2006, Francesco Pele, étoile montante de son clan, fume une cigarette sous sa véranda quand il reçoit une pluie de chevrotines dans le dos. Pendant des jours, une dizaine de proches armés jusqu'aux dents montent la garde devant la chambre d'hôpital. Les médecins, eux, n'osent rien dire. Francesco Pele s'en tire, mais il ne pourra plus jamais se servir de ses jambes. C'est lui, cloué dans son fauteuil roulant, qui relance la faïda. Pele à Giancalu Nirta dans le collimateur, il est persuadé que c'est lui qui a commandé son agression. Nirta, lui, soupçonne Pele de vouloir reprendre le contrôle de certaines routes de la drogue. Alors, les deux hommes s'affrontent à distance, depuis l'enfance. Et pour cause, Gianluca Nirta est l'un des blessés du fameux jour du carnaval, souvenez-vous, 15 ans auparavant. Renato Cortez dirige la brigade mobile de Reggio de Calabre. Il connaît bien les ressorts de la vendetta. Il en parle dans le documentaire « Ma base sur l'Europe ».
Une haine farouche oppose ces clans. Une haine suscitée par le sang versé. Ça a été la marque de cette vendetta de San Luca qui remonte au début des années 1990. Le sang appelle le sang. Et si je t'élimine, comment dire, j'assouvis mon désir de vengeance. Et je sais aussi que si je t'élimine, j'affermis mon pouvoir sur les marchés illégaux, aussi bien en Italie qu'à l'étranger.
Alors, le jour de Noël 2006, un commando prend d'assaut la maison du frère de Gianluca Nirta, qui reçoit la famille pour les fêtes. Mais rien ne se passe comme prévu, c'est Maria, 33 ans, la femme de Gianluca Nirta, qui tombe sous les balles. À peine le décès de Maria annoncé, tous les cochons de la porcherie du clan Pelle sont abattus. Seule la truie est épargnée. Le message du clan adverse est clair, nous, on ne tue pas les femmes. À San Luca, le niveau de parano monte encore d'un cran. À la fin des vacances de Noël, beaucoup de parents ne remettent pas leurs enfants à l'école, de peur que la vendetta ne touche les mineurs. En juin 2007, une Volkswagen Golf quitte San Luca, direction Duisbourg. À bord, deux hommes du clan Pele Votari, responsables de la mort de Maria. Ils ne savent pas que des enquêteurs ont truffé l'habitacle de micros. L'homme qu'on entend s'adresse à Marco Marmo, un individu qui sera retrouvé mort deux mois après, à Duisbourg.
ça ne va pas s'arrêter. Si Gianluca ne meurt pas, ça ne peut pas s'arrêter. Et il n'a plus rien à perdre, Marco. C'est pour ça qu'il est dangereux, tu comprends?
En clair, ces individus craignent tellement le retour de bâton du mari endeuillé et des siens qu'ils jugent plus prudent de les prendre de court. Mais ils ne vont pas avoir le temps. Et rien ne sert de courir. Les Nierta Strangio sauront les trouver. Les policiers allemands n'ont pas non plus vraiment les moyens d'éviter le pire. En 2006, l'équipe d'une quinzaine de personnes dédiées à la lutte contre Drangheta a été dissoute peu avant la Coupe du Monde de football. Leurs homologues italiens tentent bien de les prévenir du drame. Le drame qui se prépare, mais rien ne se passe. Dans la nuit du 15 août à Duisbourg, les tueurs passent à l'action. La date, celle de la fête de l'Assomption, n'a pas été choisie au hasard. Elle répond symboliquement aux assassinats de Noël 2006. Dans la mentalité mafieuse, coucher l'ennemi ne suffit pas, il faut le faire un jour de fête. Vous vouliez vous réunir autour d'une table, vous le ferez autour d'un cercueil. Marco est tué parce qu'il a acheté des armes et des véhicules utilisés contre le clan adverse pour le compte des boss. Sébastiano, parce qu'il aurait stocké des armes. Francesco, lui, est né dans la mauvaise famille. Ça suffit pour mourir. Tommaso est tué parce qu'il venait de recevoir son baptême mafieux. Quant aux deux autres, ils étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais la Drangheta ne fait pas dans le détail. Vers 4 heures du matin, le téléphone sonne à San Luca. Le propriétaire de la pizzeria appelle Achille Marmo. Tous les deux viennent de perdre un frère. Ils sont sur écoute.
Allô?
Qui est?
C'est qui?
Achille.
La maman est là? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est près de toi?
Non,
je dois sortir de la maison. Va la chercher, va. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère est mort. Mon neveu est mort, ton frère est mort. Ils sont tous morts.
Mon frère?
La maman, c'est aussi le chef du clan. Les écoutes téléphoniques sont cruciales pour les investigations. Parce qu'enquêter sur Drangheta, c'est se heurter à un mur du silence. Non, à San Luca, on ne parle pas. Plutôt mourir. Alors, la direction anti-mafia de Reggio de Calabre opte pour la manière forte. Elle attend la tenue, sous haute sécurité, des obsèques des victimes. Et le 30 août 2007, à l'aube, 15 jours après le massacre, elle lance une opération digne d'un raid militaire. 500 policiers carabiniers encerclent San Luca. Dans le ciel, des hélicos surveillent le chemin de montagne du massif de la Spromonte. En surface, les forces de l'ordre ratissent les rues escarpées. Pendant que sous terre, équipées de casques de mineurs, elles arpentent les kilomètres de galeries naturelles ou artificielles creusées dans la colline. Enfin, une équipe de carabiniers découvre à coups de marteau-piqueur le bunker dans lequel se terrent les parrains du clan Pellevotari. Le coup de filet, spectaculaire, se conclut par l'arrestation de 32 personnes. 27 hommes âgés de 21 à 60 ans et 5 femmes. Parce que les femmes, malgré les apparences, ne sont pas uniquement des victimes de la violence. Pour assurer la continuité du clan, elles s'érigent traditionnellement en gardiennes des soi-disant valeurs de la mafia, cette société soi-disant honorable, et perpétue les vendettas. Tous et toutes sont accusés d'associations mafieuses et de crimes, qui vont du trafic de cocaïne jusqu'au meurtre, en passant par le trafic d'armes. Deux ans plus tard, la police met la main sur celui qui a planifié la tuerie de Duisbourg et tiré cette nuit-là Giovanni Strangio, le cousin de Maria, morte le jour de Noël. En mars 2009, il est arrêté loin de son fief. Il se cachait aux Pays-Bas, reclus dans son appartement avec sa femme et son fils de 3 ans.
Giovanni Strangio, 30 ans, responsable de l'action la plus marquante menée par la Ndrangheta à l'étranger, n'a pas pu s'échapper. Strangio se trouvait à Amsterdam avec son beau-frère Francesco Romeo, en fuite depuis 1997, recherché pour association mafieuse. À la nuit tombée, les agents de la brigade mobile de Reggio de Calabre et du service central opérationnel de la police d'État ont déclenché une opération éclair. Il sera extradé vers l'Italie dans les prochains jours. Un mandat d'arrêt international avait été émis contre Strangio, qui faisait partie des 30 fugitifs les plus dangereux au monde.
À l'annonce de son arrestation, les commerçants voisins de la pizzeria qu'il gérait à Düsseldorf sont abasourdis. Qui aurait cru ce jeune calabré, discret mais sympathique, capable d'une telle horreur? À San Luca, ses parents crient à l'acharnement judiciaire. Giovanni n'a pas pu faire une chose pareille. Pensez-vous, Il ne supportait pas la vue du sang. Il faut attendre 2019 pour que le deuxième tireur, Sebastiano Nirta, confondu par son ADN, soit arrêté. Tous les deux purgent une peine de prison à perpétuité. La même année, le procureur Nicolas Gratteri explique pourquoi une telle tuerie est une erreur, en vérité, pour le crime organisé.
La strage est culminée le 15 agosto.
Le 15 août, le massacre atteint son paroxysme. Le 2 septembre, jour de la fête de la Madonna di Polsi, l'élite de la 'Ndrangheta convoque les chefs des deux familles. Nirta Strongio d'un côté, Pele Votari de l'autre. Elle les fait s'asseoir autour d'une table et les oblige à faire la paix. Parce qu'elle dit, non, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe. Si vous avez des problèmes, réglez-les en Italie, mais pas à l'étranger. Vous faites des affaires à l'étranger. Nous devons vendre de la cocaïne et blanchir l'argent de la cocaïne, mais pas de mort. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre Duisbourg. Il en va de la crédibilité, de l'image, de la réputation de la 'Ndrangheta, mais surtout des affaires.
Le sang ne coule plus, ou presque, dans les rangs de la 'Ndrangheta. En revanche, l'argent coule à flot. À travers son réseau international tentaculaire, composé de plus de 300 clans familiaux et plus de 60 000 membres, la mafia calabraise réaliserait un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards d'euros, soit plusieurs points du PIB italien.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le massacre de Duisbourg, gros plan sur la 'Ndrangheta, dont nous parlons avec notre invitée Clotilde Champérache. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférences au CNAM, pôle sécurité, défense, renseignement, et surtout autrice de Géopolitique des mafias, parue aux éditions du Cavalier Bleu en 2024. Il y a donc une géopolitique des mafias, on en reparlera. Mais d'abord, selon vous, de quoi cette tuerie de Duisbourg est-elle le symptôme pour vous? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Beaucoup de choses, notamment sur cette capacité de la mafia calabraise à s'établir en dehors de son territoire d'origine. Mmh. Et aussi, elle dit des choses sur l'aveuglement des pays autres que l'Italie par rapport au phénomène mafieux. C'est-à-dire que, comme ça a été dit dans le reportage, il y a eu plusieurs alertes. Les carabiniers, les policiers italiens avaient alerté l'Allemagne, alertent régulièrement d'autres pays sur ce que les mafias, au sens juridique italien du terme, sont capables de faire. Et c'est pas seulement la cocaïne, c'est aussi cette infiltration dans l'économie légale, ces commerces, ces implantations dans des villes qui peuvent paraître secondaires. C'est vrai qu'avant le massacre, Duisbourg, on savait pas trop son existence. En réalité, c'est pas n'importe quoi comme ville. Elle est secondaire, mais elle est riche économiquement. C'est un port fluvial. Et ça, c'est fondamental pour la logistique criminelle. Et on a cette implantation qui se fait avec des projections calabraises impressionnantes, pas qu'en Allemagne.
Alors, restons sur l'Allemagne quand même, on reviendra sur les autres après. Mais alors pourquoi les Allemands ne prennent-ils pas garde aux dangers dont on les prévient pourtant?
Alors on les prévient qu'il y a des mouvements suspects, notamment de personnes entre l'Italie et l'Allemagne. Ceci étant, même les Italiens ont été surpris par le massacre de Duisbourg, parce que justement, les règlements de compte normalement se font sur le territoire d'origine, et l'Italie est plus habituée que les Allemands. Ça a été une erreur. De ces familles de San Luca de s'affronter en dehors de leur territoire. Une erreur qui a été ensuite corrigée véritablement parce que d'un côté l'Allemagne a continué dans son attitude de déni, c'est-à-dire que l'enquête s'est beaucoup limitée à arrêter les tueurs, pas forcément à enquêter sur l'emprise économique sur le territoire et pas de changement dans la législation allemande, alors que comme on l'a vu, hein, comme on l'a entendu, il y a eu cette réunion où on a imposé aux familles de faire la paix, ou en tout cas de régler leurs comptes de façon plus discrète. Et ce qui n'est pas dit, c'est que aussi la mafia calabraise, qui pense stratégiquement le territoire, s'est réorganisée suite à ce massacre en déployant autrement son dispositif d'implantation en Allemagne. C'est-à-dire que vous avez un organigramme mafieux qui gère parfaitement le territoire avec une implantation locale, des familles, des familles qui se regroupent dans ce qu'on appelle une locale, et des projections à l'extérieur. Donc des chaînes migratoires de Calabrais, mais aussi de mafieux Calabrais, qui s'établissent d'une ville à l'autre. Donc c'est vraiment un flux San Luca-Duisbourg, par exemple. Et plutôt que d'avoir un lien direct avec San Luca, on va établir, après le massacre de Duisbourg, ce qu'on appelle une chambre de contrôle, donc une projection de l'organigramme mafieux directement sur le territoire allemand pour être plus rapide dans la gestion des affaires sur le territoire allemand.
Alors, San Luca est quand même considéré comme la capitale, entre guillemets, de 'Ndrangheta, c'est sa base, hein, son berceau. Alors, effectivement, San Luca est un endroit étrange, pas spécialement beau, dans un pays qui, quand même, recèle beaucoup de belles choses. Il y a une ambiance bizarre pour y être passé. Vous y êtes passé déjà, non?
Oui.
Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de San Luca?
San Luca, là aussi, c'est le double jeu de l'Andrangheta sur ce qu'elle est et ce qu'elle veut donner l'impression d'être. On n'est pas dans du gangstérisme d'affichage avec les chaînes en or qui brillent, etc. On est plutôt dans ce côté, mais non, nous, on est...
Rural.
Oui, on est rural, on est archaïque, on n'est pas dangereux, mais c'est encore plus terrifiant, parce qu'il y a, un pouvoir qui se déplace, qui est un pouvoir pour le pouvoir et non pas pour l'argent et l'ostentation. Et San Luca, là aussi, comme Duisbourg, on ne connaissait pas véritablement ce nom-là, sauf ceux qui s'intéressent justement à la 'Ndrangheta, c'est le cœur névralgique de la mafia calabraise, c'est-à-dire qu'il y a une prééminence des familles de San Luca, il y a ce sanctuaire de la Madone de Polsi où se regroupent les chefs mafieux, et c'est une présence qui imprègne le territoire. On a parlé de souterrains, c'est carrément des villes miroirs qu'on a en Calabre, c'est-à-dire que la ville est reproduite en souterrain, et ça permet de se planquer, de faire ce que j'appelle des cavaliers mobiles, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont recherchées depuis des années, mais qui sont sur le territoire calabrais. Mmh. Soit dans ces villes sous terre, soit dans l'Aspromonte, qui est aussi une source de pouvoir, parce qu'il y a une maîtrise du territoire, des caches, qui est exceptionnelle.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec le centre névralgique de Cosa Nostra à Corleone, au centre de la Sicile, bien qu'il y ait aussi Palerme, Corleonesi, Palermitan, c'est un peu les deux capitales. Ça fonctionne différemment ?
C'est différent, parce que déjà Corleone, c'est pas le berceau initial, hein, c'est vraiment la Conque d'Or près de Palerme qui est la naissance D'accord. de Cosa Nostra. Et on a eu un affrontement. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est que dans l'affrontement palermitain-corléonais, on a vu que la violence, c'était un aveu de faiblesse de la part de l'organisation mafieuse. Ça montrait que la hiérarchie des familles n'était pas respectée. Et en même temps, ça a entraîné des représailles massives de l'État italien.
Oui.
C'est-à-dire, on peut pas laisser des juges se faire assassiner, des attentats se produire à Florence, à Milan et à Rome. Et les Calabrais, les mafieux Calabrais ont appris aussi de cette expérience-là, parce qu'ils communiquent entre eux, hein, ces mafias sont en contact, et ils ont intégré la nécessité de mieux gérer leurs affaires en commun, même si Duisbourg a été une anomalie, mais ils ont un peu diversifié encore une fois cet organigramme, hein, qui est un agent de leur puissance, la capacité à réécrire les choses, à se réorganiser, ce qui fait qu'à une structure qui est horizontale, les familles souveraines sur un territoire, ils ont ajouté une structure plus verticale qui n'est pas une pyramide au sens où il y aurait un chef des chefs qui commanderait tout le monde, mais une instance de concertation, de coopération pour justement recourir moins à la violence ou pas une violence ostensible qui, encore une fois, attire les représailles.
Il n'y a pas de capo dei capi.
Non, mais même dans Cosa Nostra sicilienne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas voir les choses, les mafias, comme des structures unitaires, très pyramidales. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à les combattre. C'est qu'elles ne s'incarnent pas dans un chef et il suffirait d'arrêter le chef pour que la structure s'effondre. Voilà, là, on est dans du transgénérationnel. Ce sont des hommes au service d'une organisation criminelle et qui meurent dans cette organisation criminelle. Donc, c'est difficile véritablement de combattre.
À vous écouter, ça donne l'impression, c'est peut-être la réalité, que 'Ndrangheta est la mafia la plus organisée, la plus structurée, peut-être la mieux structurée de toutes les mafias qu'on a connues en Italie, peut-être.
Est-ce que... C'est la plus fermée déjà, ça on l'a bien dit, avec ces liens biologiques qui font qu'effectivement il y a extrêmement peu de collaborateurs de justice pour cette mafia-là. Ceci étant, actuellement, Cosa Nostra sicilienne est en train de se réorganiser. Hein. On a eu une grosse opération de police avec 180, je crois, arrestations le 11 février. Donc, toutes les mafias continuent d'exister. En revanche, la mafia calabraise, elle est puissante parce qu'elle a une position dominante pour le trafic de cocaïne en Europe. Donc, elle est très riche. Et puis, elle a, encore une fois, cette volonté de s'implanter à l'étranger et de s'implanter à l'étranger, pas seulement pour accompagner des affaires illégales, mais pour s'enraciner dans un territoire, recréer des territoires de mafia en dehors de la Calabre. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
France Inter. Affaires sensibles.
Clotilde Champérade, nous, pardon, nous disions tout à l'heure qu'il n'y avait pas ou peu de repentis chez Drangheta, contrairement à Cosa Nostra. On se souvient qu'une bonne part du succès des juges Borsellino et Falcone reposait sur la stratégie du repenti, notamment Buscetta. Il y a moins de repentis chez Drangheta, ce n'est pas une tradition.
Bah, comme dit dans le reportage, c'est extrêmement complexe quand vous avez des liens véritablement familiaux qui prédéterminent l'appartenance à l'Andrangheta. Donc quand vous dénoncez effectivement votre père, votre oncle, quelqu'un de très proche. Et puis la chanson parlait de l'Omerta et expliquait que c'était la loi de la société criminelle et que celui qui parlait le paierait de sa vie, alors que celui qui, je cite, ne parle pas, ne voit pas, n'entend pas, celui-là, il vit en paix pendant 100 ans. Donc il y a vraiment cette intimidation par la loi du silence.
Bien, alors, Drangheta est une pieuvre, donc avec des tentacules, qui sortent allègrement des frontières de la Sicile et même de l'Italie. Comment la Drangheta s'est-elle diffusée à l'étranger et où ? Alors on a parlé d'Allemagne, mais les autres pays ?
Sur tous les continents actuellement, on peut dire ça parce que... mais déjà, il y a une implantation sur le continent américain qui date d'un siècle. Parce qu'il y a eu ces migrations aussi. La Calabre est une terre extrêmement pauvre, donc avec une pression migratoire forte, on va chercher la fortune ailleurs. Et dans ces flux, vous avez aussi des mafieux qui sont partis s'établir à l'étranger, qui parfois se sont enrichis à l'étranger et qui ont donc fait miroiter cette richesse-là avec des chaînes migratoires qui viennent se cumuler. On a aussi, il faut le dire, au sein de l'Italie, des territoires qui sont tombés du nord de l'Italie, qui sont tombés dans les mains de la mafia calabraise, notamment l'Émilie-Romagne, avec l'opération...
Bologne, Rimini...
Voilà, l'opération Emilia de 2015, qui est terrible, parce que la conclusion du procès, enfin des procès qui ont eu lieu, c'est que l'Émilie-Romagne, qui était le territoire de la légalité en Italie, hein, avec un tissu de coopératives, des programmes d'éducation à la légalité, ce territoire-là est considéré maintenant comme un territoire sous emprise de la mafia calabraise, avec une infiltration qui s'est faite pas tellement par les activités illégales, il y a des affaires de stup, mais c'est surtout des entreprises légales contrôlées ou conditionnées par les mafieux calabrais qui s'emparent de marchés publics dans le BTP, un système d'extorsion qui se met en place sans dénonciation. Donc vraiment une emprise à bas bruit et qui fait tomber tout un territoire. Et pour en revenir à l'étranger, les mafieux calabrais sont aussi présents en Afrique parce que les routes de la cocaïne passent aussi par l'Afrique. Donc ils ont leur émissaire là. Et puis toute l'Europe est gangrénée, parce que chaque territoire est attrayant aussi pour les mafieux calabrais, avec chaque territoire qui est mis en balance avec les autres, et chacun a ses spécificités et son attrait particulier.
Dont la France ou pas ? On n'en parle jamais.
Oui, on n'en parle pas, parce qu'en France, on est, en plus l'actualité le remontre, on est focalisé sur le narcotrafic. Ouais. J'ai dit que les mafieux calabrais avaient une position dominante dans le trafic de cocaïne, mais pour l'importation de gros. Ce sont des intermédiaires, des brokers.
Alors, est-ce qu'ils travaillent avec les cartels sud-américains de Cali, de Medellín ?
Bien sûr, ils ont leurs émissaires sur place, ils travaillent avec eux, ils achètent en gros, ils ont une réputation criminelle établie, donc on leur fait totalement confiance. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'acheter en gros pour le compte d'autres organisations criminelles. Mais techniquement, ils ne touchent pas forcément la cocaïne. Donc, ils ne dealent pas la cocaïne. Eux, ils sont sur les grosses affaires, les grosses quantités, sur les grosses marges. Oui. Et sur le territoire français, ils ne dealent pas, donc ils ne vont pas tomber pour ces affaires-là. Mais ce que les Italiens essaient de faire comprendre, c'est que justement, la question de l'infiltration dans l'économie légale, elle est véritablement essentielle, et que les mafias, il y a un enjeu de pouvoir aussi, d'où cette présence dans la sphère légale, là où on ne les cherche que dans l'illégal.
Et par rapport à la population, je me souviens sur une des places centrales de Naples, toute une série de photos de victimes de la mafia avec la mention « Mafia Merda ». Ça, c'est la Camorra. Hein, la Camorra, ouais. C'est la mafia de Naples, de la Campanie. Elle en est où, la Camorra ?
Elle se porte... Alors, la Camorra, c'est intéressant parce que c'est la plus indisciplinée des mafias italiennes, ce qui fait qu'on a un paysage qui est extrêmement contrasté. Alors, quand je disais que c'était pas pyramidal, la Camorra, c'est il y a une alliance, il y a des clans, il y a des familles, et puis il y a tout autour ce qu'on appelle en Italie les baby gangs, c'est-à-dire des groupes criminels de mineurs qui essaient de se faire repérer par des organisations criminelles plus importantes. Donc c'est un paysage très, très éclaté, mais qui a une emprise sur le territoire majeur. Du côté de Naples, on ne dit pas la mafia ou la Camorra, on dit au système. Le système, parce que ça régit tous les aspects de la vie économique, politique et sociale.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que les mafias puissantes en Italie, je crois qu'on peut le dire, ont mis en place une économie parallèle ? Et à quel point ça nuit à l'économie officielle de l'Italie ?
C'est même plus une économie parallèle, c'est une économie dans l'économie et qui en plus a tendance à exproprier les personnes qui, elles, voudraient rester honnêtes. Donc il y a des phénomènes d'imitation avec des entrepreneurs honnêtes qui vont se dire que frauder un peu le fisc, pourquoi pas, parce qu'il y a une pression criminelle qui s'exerce. Donc ça détourne toutes les lois, ça introduit une forme d'illégalité diffuse et on est passé de comportements où on avait beaucoup d'assujettissement parce qu'il y avait l'intimidation criminelle, la violence, à des situations où la violence est beaucoup plus raisonnée, donc moins visible, moins forte, et où vous avez des acteurs de l'économie légale et des politiques qui considèrent que la complicité, finalement, est une option tout à fait acceptable, et c'est même la solution gagnante, d'une certaine façon, face à une emprise criminelle avérée.
Alors, dernière question, on a fait le tour des mafias du sud de l'Italie. Je ne sais pas s'il y a une mafia en Basilicate, mais il y a une mafia dans les Pouilles dont j'arrive jamais à me souvenir le nom.
La Sacra Corona Unita.
Voilà, elle a beaucoup de pouvoir comme...
Non, elle est plus jeune, elle essaie de s'affirmer. Il y a 2 ans, il y a eu beaucoup d'attentats, mais qui montraient aussi que le racket, qui est quand même l'expression de la souveraineté territoriale des familles mafieuses, que le racket rencontrait des résistances. Hein. Donc ça prouvait que c'était encore compliqué. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire des Pouilles, c'est l'adoubement par la mafia calabraise de ces structures criminelles nées dans les Pouilles.
Merci infiniment, Clotilde Champéra.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie de Duisbourg, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Maher.